bonjour, bonsoir à tous, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez. Nous sommes l'équipe Calisson et vous avez le plaisir, que dis-je, l'honneur d'écouter le tout premier épisode du Café Culture. Le Café Culture, c'est quoi? C'est ce rendez-vous mensuel. Tous les mois, l'équipe Calisson va venir vous donner les petites recos culturels. Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on a lu? Qu'est-ce qu'on a vu? Etc. Où est-ce qu'on est allé? Et pour ce tout premier épisode, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné. La plupart du bureau est avec moi. Laura.
Coucou la team.
Manon.
Yo.
Rebecca.
Oui.
Rebecca, ça va?
Rebecca, ça va?
Ouais.
C'est Rebecca.
Manon qui a la régie mais qui peut pas parler, ça va Manon? Je pense qu'on t'entend, il y a un monde où on t'entend. Et Elio qui n'est pas avec nous mais on pense fort à lui. Je suis à Nice, nous sommes l'équipe Calisson, ben générique.
Mesdames et messieurs, bonjour, un nouveau générique.
Vous n'aimez pas voir la ville, allez vous faire foutre.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
C'est un pic,
c'est un cap, c'est une péninsule.
Life is good.
Good afternoon, good evening and good night.
C'est parti. Alors c'est moi qui ai l'honneur d'ouvrir ces recommandations culturelles. On va commencer par un bouquin qui s'appelle Midnight in the Garden of Good and Evil de John Berendt. Oui, le bouquin est aussi bien que le titre. Ça a été un best-seller dans les années 90. Ouais, ça remonte un peu, ouais. Et il a fini finaliste du prix Pulitzer, qui est un gros prix littéraire aux USA. Les fêtes déroulent dans la ville de Savannah en Géorgie dans les années 80. Allez check cette beauté architecturale vraiment pépite. J'y ai été personnellement, c'est très très cool. Petite info comme ça en passant, c'est là qu'ont été tournées plusieurs scènes de Forrest Gump. L'histoire se concentre autour du meurtre d'un mec absolument détestable, genre il est misogyne, il est violent, il est toxique, mais en même temps on sait pas pourquoi, il est attachant. Les événements qu'il a vécu sont assez durs. Enfin voilà, il est un peu attachant finalement. Le principal succès, son principal soutien pardon, c'est son bienfaiteur qui a pas mal de procès au cul, mais qui est un membre très apprécié de sa communauté. Un gros point positif du bouquin, c'est que c'est un roman policier qui n'est pas fictif. Genre ouais, c'est une histoire vraie. En fait, c'est un genre qui s'appelle le true crime. Désolé, mon accent anglais est détestable. True crime. Le style de sang froid de Truman Capote, je sais pas si vous connaissez. Et comme tous les styles littéraires... Super. Bah, c'est un très bon bouquin. C'est sur les meurtriers en série, voilà. Et comme tous les styles littéraires qui parlent de faits divers, c'est né aux États-Unis. Hein, voilà, on connaît. Le deuxième point positif, c'est le placement du décor. On sait pas de quoi on va parler avant la page 150 à peu près, ce qui laisse vraiment beaucoup de suspense. Et on apprend à connaître les différents protagonistes à travers plein de petites histoires assez prenantes. Genre, il y a de construction de plein de petites histoires qui vous prennent et vous dites « Ouais, mais ça sert à quoi tout ça ?» Et en fait, à la page 150, bam. Pardon. Les persos sont tous très différents, très bizarres à leur manière. On a une prêtresse vaudou, un antiquaire riche nazi, un ancien aristocrate, un chercheur de la NASA qui se balade avec du poison qui pourrait buter toute la ville. Voilà. Un autre gros point positif, c'est le style littéraire qui est super accessible. L'humour est assez bresson, mais franchement, c'est assez appréciable. Ça change pas mal des romans moralisateurs et en plus, c'est sur l'histoire d'une ville assez passionnante. Si vous avez la flemme de lire 400 pages en anglais, pas de panique, la version traduite existe aussi. Vous pouvez regarder le film de Clint Eastwood. Il a un peu mal vieilli, mais il reste drôle et sarcastique. C'est vraiment top top.
Ça donne envie de lire autre chose que les justes de Camus.
Oui,
bref. Du coup, moi, je vais enchaîner. Tu l'as lu ou pas?
Bah non, mais j'ai oublié qu'il fallait lire.
Ouais,
lisez-le
les deuxièmes
enfin,
années.
Moi, dans mon cours, c'est pour la semaine prochaine, ouais.
Les deuxièmes années, t'es des cultures générales, il faut lire le
ouais.
juste.
Mais vous, c'est Édouard Louis, peut-être, pour vous, en première année
Ouais, en première année, je crois que c'est encore Édouard.
Enfin, ça va.
Non, en fait, ça dépendait.
Ah, il y a Orwell,
C'est 1984.
Moi, j'avais aussi ce que Le jour doit à la nuit.
Ah, bien, cool.
Ah oui, très bien.
Ça, c'est OK.
Deuxième semestre.
Bah nous, elle était pas là,
elle est partie. Bref, du coup, moi, je vais enchaîner sur des recos. Enfin, c'est pas que des recos, mais des films que j'ai vus ce mois-ci et dont je vais vous parler. Donc d'abord, je suis allée voir La Nonne, La Malédiction de Sainte-Lucie,
ouais.
qui est un film d'horreur sorti le 13 septembre 2023. Oh, quelle surprise. Donc pour les adeptes de films d'horreur, c'est le deuxième volume du coup de La Nonne qui vient de sortir au cinéma, comme je viens de le dire. Et vous verrez, c'est le premier, on va dire, de la saison de films d'horreur qui sortent, parce que là, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal de films d'horreur qui sortaient en salle dans les semaines à venir. Donc en gros, c'est l'histoire du premier volume qui se poursuit dans ce film. On suit Irène, qui est une bonne sœur qui traque l'esprit démoniaque rencontré en Roumanie. Et elle se retrouve en France. Et oui, l'intrigue se déroule dans le sud de la France et plus spécifiquement à Tarascon et Aix-en-Provence, RPZ. C'est pour cela que je vous en parle, pour être honnête. L'atmosphère du film n'est pas particulièrement pesante ni effrayante. Et la nonne, censée être le screamer un petit peu continuel, apparaît très peu et n'apporte rien en matière d'épouvante.
Ah.
Donc, mis à part que vous reconnaîtrez peut-être les lieux de tournage qui sont assez bien choisis, dont certains juste à côté de Sciences Po, mais vraiment juste à côté de Sciences Po, honnêtement, le détour n'en vaut pas la peine. Espérons que les prochains films d'horreur qui sortiront seront un peu mieux, parce que pour la nonne, c'est un flop. Voilà.
Anecdote par rapport à ce tournage, il faut savoir qu'ils ont tourné juste en face de Sciences Po, comme l'a dit Laura. Et moi, une fois, j'ai eu cours jusqu'à 20h, il faisait nuit, je suis tranquille, voilà, je suis fatiguée, je sors, et là je vois un truc vraiment bizarre. Si vous avez vu la nonne, vous voyez le maquillage, les yeux rouges et tout. Et là je sors de cours de russe, et je vois quoi? La nonne en train de fumer sa clope, j'ai fait une crise cardiaque. Putain, je...
Vraiment,
ouais.
J'avais très peur, je crois.
Oui, je pense qu'on aurait tous
eu peur. Ça m'a fait plus peur que le film lui-même.
Après, marrant à la fin,
c'est pas étonnant.
C'est un peu spécial.
Voilà.
Et sinon, le deuxième film que j'avais à vous présenter, c'est un film qui, pour le coup, est paru en début d'année 2023, le 25 janvier, pour être précise, qui s'appelle Tar. Et c'est un film de Todd Field.
Moi, j'ai bien aimé.
Donc, bref, je vous fais un petit peu le pitch. Donc, dans ce film, on suit la vie d'une chef d'orchestre allemande, Lydia Tarr, interprétée par Kate Blanchett. Donc, cette chef d'orchestre, elle a une renommée internationale, elle est vraiment à l'apogée de sa carrière. Et parce qu'elle sait qu'elle est reconnue dans son milieu, Lydia Tarr va légitimer certains comportements cyniques, d'une part avec ses musiciens, et autoritaires dans ses relations, afin de maintenir son autorité, du coup son pouvoir. Sauf qu'on comprend en fait au fur et à mesure du film que ses comportements sont humiliants, manipulateurs, persécutants. C'est là pour moi tout l'intérêt du film en fait, le spectateur appréhende le personnage principal à la fois à travers ses propres yeux, puisqu'au départ en fait on comprend que le personnage principal est assez tourmenté, mais après au fur et à mesure du film on comprend que c'est vraiment une autorité méprisante, et donc voilà. Kate Blanchett ne déçoit jamais, encore une fois ici masterclass de cette magnifique actrice. Les plans et le choix des couleurs, je trouve, ont permis permettent d'installer une ambiance pesante et propre à la personnalité du personnage principal. Seul inconvénient pour moi, le film est un peu trop long. Je pense qu'on aurait pu se passer de certaines scènes de dialogue qui s'étendent. Anis, Permets-toi.
Je me permets. Le film, franchement, techniquement, c'est 5 sur 5, voilà, y a pas de souci. C'est bien filmé, ouais. Elle joue très bien.
Très très bien.
Mais qu'est-ce que c'est chiant!
C'est long. Mais c'est aussi, je pense, le but de la réalisation. C'est qu'en fait, du temps à comprendre que c'est la complexité du truc psychologique. Quoi.
C'est long, mais la longueur, je la comprends, mais il y a un truc qui m'a énervé dans le film, c'est son côté genre méprisant, je trouve.
Le film
est ultra genre élitiste, et les 15 premières minutes, pour ceux qui l'ont pas vu, les 15 premières minutes du film, c'est genre une interview de Lydia Tarr qui parle de trucs genre hyper techniques, avec des références ultra techniques et tout. Et quand tu vois le film et que t'as pas les refs, déjà faut savoir que le générique du film, c'est un fond noir pendant 5 minutes avec de la musique, et t'as tous les noms qui apparaissent et c'est ultra long. Donc déjà les 5 premières minutes du film, elles te refroidissent pas mal. Et ensuite t'as les 15 minutes qui arrivent, vraiment les 20 premières minutes, elles font très mal et elles donnent pas envie de voir la suite. Après il y a des trucs intéressants dans le film, allez le voir parce que...
Il est en train de démonter
Franchement, allez le voir parce que c'est intéressant, t'apprends des choses et tout. Je parle trop fort.
Après, je suis d'accord avec toi. Moi, en fait, je l'ai regardé en deux fois. J'ai regardé le début et je me suis dit, ah mais c'est vraiment nul. Je me fais vraiment chier en fait, genre c'est trop trop chiant. Et après, je trouve que passer la première, une heure et demie, ça devient vraiment bien.
Ça devient intéressant.
Ça devient très très bien.
Mais dans une salle de cinéma, c'est long.
Mais dans une salle, moi, je l'ai pas vu au cinéma après, donc voilà. Mais effectivement, la première heure est compliquée. C'est pour ça que je dis, que le film est un petit peu trop long et qu'on aurait pu se passer, surtout des scènes de dialogue qui, franchement, on s'en fout, quoi. Mais regardez Tar, franchement, c'est plutôt bien. Un peu long, mais si vous avez du temps, du coup, regardez. Ouais. Et franchement, c'est très très bien joué.
Ouais, faut y aller.
Et très bien réalisé.
La scène en plan séquence où elle se dispute avec un élève, ouais, genre, sur ouais, des trucs de wokiste,
ouais,
et tout,
franchement,
elle est trop trop.
Ouais, non, franchement, c'est ouais, très très bien
c'est
réalisé.
C'est très fort, faut y aller.
Et Kate Blanchett. Rien à dire de plus. Elle est très forte. Bref, voilà la team, c'était mes deux recommandations un petit peu cinématographiques. N'allez pas voir La Nonne, hein, c'est pas vraiment une recommandation, non. C'est juste...
Parce que j'avais des places gratuites au cinéma, éventuellement.
Exactement.
Et encore.
Et le Basse Culture. Et non, encore, et encore, ça en vaut même
si
pas la
vous
peine.
Paye, peut-être.
Si ouais, on vous paye, mais c'est vraiment juste parce qu'il y avait des décors à Aix et que... Voilà.
Et que je viens d'une ville là à côté de Tarascon.
Voilà,
du coup
on était obligés d'y aller. Mais voilà. Allez voir Tar en revanche, c'est vraiment plutôt pas mal. Et je laisse la parole du coup à Manon Barbast.
Du coup, oui, moi je vais vous parler pas d'un livre et pas d'un film. Du coup, j'ai décidé de vous parler d'une exposition permanente. C'est celle des Carrières des Lumières, au Pot de Provence. Et du coup, je choisis de vous parler de ça parce que les Pots de Provence, en fait, c'est un village super mignon de Provence. C'est très très cliché et c'est à 50 minutes en voiture d'Aix. Je sais pas si on peut s'y rendre en bus ou en train. Faut un peu se renseigner, mais c'est très très mignon. Le village, il est tout en hauteur. Au sommet, vous pouvez visiter un château. Mais surtout, ce que je vous conseille, c'est le super belvédère à partir duquel vous pouvez observer une grande partie de la région Provence. Et c'est très beau et vous connaîtrez plein de paysages. Du coup, pour expliquer un peu les Carrières des Lumières, c'est une ancienne carrière du coup, logique. Et la carrière, c'est la carrière des grands fonds, en gros, qui a ouvert en 1800. Et parce que la pierre des Bretons-Provence, elle était hyper connue pour être très blanche, de très bonne qualité, tout ça. Mais ça a très vite fermé après la Première Guerre mondiale, tout ça. Et du coup, il y a plein d'autres projets qui vont être menés dans cette carrière. Et ça va être des projets principalement à caractère artistique. Vous pouvez vraiment aller vous renseigner sur le site. Il y a Jean Cocteau qui est venu tourner Le Testament d'Orphée. Ou encore, il y a Joseph Svoboda. Je le prononce très mal, je pense. Mais lui, il va avoir l'idée, en gros, d'utiliser les immenses murailles rocheuses pour les utiliser comme support pour la projection d'un son et d'un spectacle de lumière. Mais du coup, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'en 2012, la Carrière des Lumières, elle voit le jour. Et en gros, c'est un lieu d'expérimentation pour culture-espace. Et c'est la création du premier centre d'art numérique. Le concept de la carrière, c'est la projection d'expositions digitales, immersives et contemporaines sur les murs de la carrière. Et on projette des œuvres, des expositions sur les immenses murs de pierre. C'est vraiment immense, je tiens à le souligner. Et il y a une bande sonore qui accompagne cette projection. Et j'ai voulu vous parler de ce lieu, vu que je viens de la région. J'habite juste à côté des Baux-de-Provence et c'est quelque chose à voir. C'est un lieu qui est assez singulier. La grandeur des murs de pierre, c'est vraiment très impressionnant. Et le format des œuvres est encore plus impressionnant du coup. La bande sonore, elle accompagne très bien le thème de l'exposition. J'ai trouvé que les carrières c'était très très immersif. Les quelques fois où je m'y suis rendue, je me suis retrouvée complètement happée en fait par le spectacle. Le thème des expositions c'est assez varié. J'ai eu l'occasion de voir les expositions de la Nuit étoilée de Van Gogh. Bah, toujours on reste un peu dans la région. Franchement très sympatoche si vous allez dans les villages. Arles, enfin la ville quand même.
La ville quand même.
Van Gogh, vous retrouvez plein de choses dessus et franchement, je suis super contente d'avoir pu voir pas mal de ses œuvres. Il y a les anthropomorphes d'Yves Klein, avec vous voyez les grands murs bleus et ça ressort encore plus dans la carrière et vraiment c'est très absorbant. Du coup, Yves Klein c'était l'infini bleu et il y avait aussi sur la Venise de Canaletto à Monet. Du coup, c'était top. Et bien sûr, la bande-son, ça accompagne toujours bien le thème de l'exposition. Et on est vraiment...
Happé.
C'est vraiment le mot qui m'est venu.
T'es happé.
Genre, vraiment, en réfléchissant à ce que j'allais vous dire, j'étais vraiment là, t'es vraiment happé, tu regardes et tu parles pas. Pendant...
Il faut qu'on y aille, là.
Voilà. Et du coup, c'est très varié. Et même si... Les carrières, ça se concentre plutôt sur la période contemporaine. Ça va mettre surtout en lumière des artistes de la région. Ça peut encore plus vous faire découvrir la région, la Provence, les alentours d'Aix. Ça, c'est toujours un plus. Et en plus, si vous venez de loin. Aussi, je voulais vous parler du choix qui a été fait pour présenter les expositions. Et en fait, c'est en continu. Les œuvres vont s'effacer les unes après les autres. Et on a l'impression que les couleurs glissent sur la pierre. et la musique suit aussi, et la musique glisse aussi. Enfin, c'est vraiment en mouvement. Et c'est très poétique.
Ça donne envie, en vrai.
Mais je le vends super bien parce que pour y être allée quand j'étais assez jeune ou même assez récemment, bah, c'est toujours la même chose. Et on est très très calme, c'est très apaisant. Et c'est un lieu tout à fait fermé. Du coup, les carrières, il n'y a aucune lumière qui rentre du dehors. Et ils ont bien fait attention à ça. Et du coup, bah, les couleurs ressortent mieux et on voit les détails des œuvres parfois qu'on ne pourrait pas voir dans l'obscurité. Et du coup, pour vous conseiller un peu, en 2023, vous pouvez assister à plein d'expos. Il y a l'aventure immersive de Tintin. Ça n'a jamais été fait. Et du coup, ça peut être très intéressant. Et aussi, un peu plus classique, il y a les maîtres hollandais de Vermeer à Van Gogh. Et après, il y a aussi ce qui peut être très plus architecture, un peu moins artistique comme on entend d'habitude. Et je vous conseille d'aller faire un petit tour aux carrières et en général au Beau de Provence. Vraiment, c'est un village très mignon avec de très belles boutiques.
C'est très très beau.
C'est très très beau. Dire. Voilà, c'est très très beau. Je vends beaucoup ma région, mais ça me fait plaisir. Et pour les questions pratiques, allez au sommet, ça monte un peu. L'entrée elle est un peu payante, mais il y a des prix réduits pour les étudiants. Mais je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion. Et aussi pour revenir sur les centres d'art numérique, en fait il y en a partout en France qui ont vu parfois le jour un peu avant avec Paris, avec l'Atelier des Lumières qui est assez
très connu. Très bien l'Atelier des Lumières, ouais. À Paris je recommande.
Voilà,
si grosse recommandation. Paris, allez,
mais du coup je sais qu'il y a à Bordeaux, je crois qu'il y en a une à New York aussi, mais bon, ouais, un peu plus compliqué d'aller à New York.
Un peu, ouais.
Mais oui, culture espace en gros, ça a été leur petit truc, les centres d'art numérique. Du coup, allez voir, peut-être à côté de chez vous, il y en a. Et du coup, maintenant, je vais laisser la parole à Rebecca qui va vous parler d'un fameux personnage.
Moi, je vais vous parler pas d'un film ni d'un livre, mais je vais vous parler d'un artiste, voilà, auteur, compositeur, légende vivante, nous autres que Jean-Jacques Goldman. Qui a gagné encore cette année pour la 10e année consécutive le titre de personnalité préférée des Français.
Est-ce que ça nous étonne?
Non, mais il est, enfin, on n'en entend plus parler. Pourquoi il gagne ça?
Mais pourquoi Jean-Jacques Goldman est autant apprécié des Français?
C'est la question qu'on se pose tous.
Et bah, j'essaie d'y répondre aujourd'hui et de vous présenter un peu le grand Jean-Jacques. Alors déjà, donc pourquoi Jean-Jacques est aussi reconnu et aussi aimé? Donc déjà, c'est qu'il a une plume très juste, en fait, il parvient à mettre des mots sur des sensations et des histoires qui sont assez complexes et de manière assez facile. Donc par exemple, c'est ce qu'il fait dans la musique C'est pas de l'amour. Donc c'est une musique, voilà, petite guitare, petit truc qui a l'air plutôt chill, mais en fait, il raconte quelque chose d'assez complexe qui est que parfois dans les relations, on a l'impression d'être amoureux, alors qu'en fait, comme il le dit, c'est pas de l'amour et que ça ressemble beaucoup, mais c'est pas vraiment de l'amour, mais il l'explique de manière, donc en 3 minutes, il explique ça et... c'est assez fort.
Des caresses, plein de mots sucrés d'enfant, attestation de tendresse, rituel rassurant.
De la même manière, donc parfois il parle de sentiments qui sont très profonds et de sujets vraiment un peu deep, mais vu qu'il l'explique de manière, encore une fois, juste, bah, ça va, en fait, en fait il met exactement les mots sur ce qu'on ressent. Donc par exemple, si en ce moment vous êtes mélancolique, par exemple dans Patois, il dit voilà pourquoi je saigne et pas toi, et donc il parle de l'indifférence que... Non. En fait il parle de à quel point ça va être compliqué d'oublier quelqu'un et que comment on a zéro contrôle, en fait l'impuissance face au fait qu'on n'arrive pas à oublier quelqu'un même si la personne en face y arrive très bien. Donc voilà, il y a aussi donc dans le même style, il y a aussi Quand tu danses et Je voudrais vous revoir qui sont aussi top. Donc voilà, mais Jean-Jacques, c'est aussi sa capacité. Sa capacité à raconter, en fait. En fait, ce qui est particulier avec lui, c'est qu'il raconte vraiment des histoires dans chaque chanson. Et il aborde des termes. Il aborde des thèmes qui sont assez originaux. Donc par exemple, dans Elle attend, il raconte l'histoire d'une meuf en fait qui passe à côté de sa vie et qui passe sa vie à réfléchir, à attendre que des choses se passent dans sa vie. Mais c'est rien pour ça.
Elle attend que ce monde étrange perde et que tout.
Voilà, mais aussi Jean-Jacques, il a aussi une particularité, c'est qu'il utilise des produits, enfin non, des, comment on dit déjà, des instrus vraiment
big instrus de rap.
Des instrus hyper originales avec du violon, de la guitare et tout. Donc par exemple dans On n'y peut rien et l'on n'y peut rien ou dans Il changeait la vie. Voilà, c'est des voilà, ça met dans l'ambiance et c'est vraiment hyper original, donc c'est trop cool. Et voilà, donc si vous aimez bien aussi, il y a aussi Et l'on n'y peut rien, voilà, Tourne les violons, les choses. Pareil, c'est des instrus hyper vives, hyper cool. Et Jean-Jacques, en fait, faut que j'arrête de dire ça.
Non, c'est bien.
En fait, JJG, il nous fait plaisir aussi parce qu'en fait, c'est un artiste qui croit en la vie. C'est voilà, en fait, c'est des chansons. Donc, ok, il parle de trucs assez dark, voilà. Dans... Pardon, je me laisse embarquer par mes émotions. Ok. Ok, il parle de sujets assez profonds, voilà, de ruptures amoureuses, de bah, la passion qui se dissipe parfois, mais aussi il nous fait croire en la vie. Donc, par exemple, dans Bonne Idée, voilà, c'est une petite guitare, c'est une musique très chill. Et voilà, il explique que la vie, en fait, elle est belle et elle est cool. Et voilà, donc Jean-Jacques Goldman, donc, c'est donc des instrus qui sont bien propres à lui, c'est des thèmes originaux, des paroles justes. Et voilà, toutes ses chansons, elles racontent des histoires différentes. Et voilà, on se sent compris par lui, c'est un peu notre papa. Parce que.
Ah oui, carrément.
Mais oui,
c'est
parce que.
C'est spirituel, quoi.
Bien sûr. Parce qu'il exprime exactement ce qu'on ressent, il arrive à mettre des mots sur des sentiments assez complexes. Mmh. Et il exprime la vie dans toute sa complexité, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà,
votre prochaine référence de culture générale, Jean-Jacques Goldman.
Non, mais franchement, oui. Écoutez, Jean-Jacques Goldman, c'est pas un artiste récent, mais ses musiques sont vraiment sympas.
Ah, récent!
Non, mais c'est pas un artiste récent, il a pas.
Un petit top 3 à balancer pour. Pas genre.
Mais moi, en fait, après,
j'ai tellement. En fait, c'est que.
Des trucs profonds que les gens connaissent pas, genre.
Mais moi, je connais que très bien les classiques, genre.
Qu'est-ce qui est sous-côté?
Y'a pas de sous-côté de Goldman?
En vrai, le truc, c'est que quand t'écoutes, il y en a tellement qui sont bien. Mais moi, je vous ai dit, donc, C'est pas de l'amour, c'est trop bien. Bonne idée, elle est hyper bien aussi. Il suffira d'un signe.
Il suffira d'un signe, elle est géniale.
Enfin, en fait, il y en a plein, même comme toi, elle est trop bien. Là-bas.
Vous pouvez pas le voir actuellement.
On se sait.
Vous pouvez pas le voir actuellement, mais leurs yeux brillent.
Vraiment, vraiment.
Oui, vraiment. Oui.
Non, mais ouais, écoutez Jean-Jacques Goldman, c'est bien.
Je pense à toi. Et quoi que j'apprenne, je ne sais pas pourquoi je saigne et pas toi.
Voilà, j'espère en tout cas qu'il va être encore la personnalité préférée en 2024.
Jusqu'à ce qu'il meure en fait.
Il va mourir un jour, Rebecca, tu sais.
Arrête.
On n'y pense pas en 2000.
Il est pas si jeune, hein.
Et voilà, mais je laisse la parole à Anis.
Bah merci. Du coup, voilà, je vais dire les termes. Le nom de Sydney Lumet ne parle peut-être pas à tout le monde, mais en réalité c'est un des noms les plus importants du cinéma. Sydney Lumet, si vous connaissez pas, c'est le réalisateur de 12 hommes en colère. Normalement c'est un film qui parle à peu près à tout le monde. Et après 12 hommes en colère, il a 12 hommes en colère, j'ai dit.
En couleur.
En couleur. Après 12 hommes en couleur. Après 12 hommes en couleur. Je vais y arriver. 1, 2, 3. Après 12 hommes en colère, il a une carrière d'à peu près 50 ans, une carrière très riche. Il y a du très très bon, il y a du moins bon. Pendant les 30 premières années de sa vie, il tournait à peu près un film par an. Donc c'est énorme. Après, c'est des rythmes de production qui sont bien différents des nôtres. Mais ça reste quand même conséquent. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'est 50 ans de carrière, mais donc 50 ans d'expérience, 50 ans de réussite, 50 ans d'échecs. Et ses 50 ans d'expérience, il les a résumés en 250 pages dans un livre qui s'appelle Faire un film. Faire un film, c'est quoi ? C'est la bible du cinématographe, c'est la bible du cinéphile. Je crie ?
Oui, tu cries. Oui.
Excusez-moi si je crie.
En fait, tu
t'agresses nos auditeurs.
Je m'emporte, excusez-moi si
je
crie.
Je peux pas te critiquer.
Sans la passion. Sans la passion.
Bah ouais, c'est le cœur qui parle. Donc, je disais, faire un film, c'est un livre que je trouve est extrêmement important à lire si vous avez un quelconque intérêt pour le cinéma, parce que c'est un livre qui nous aide vraiment à comprendre toutes les étapes de la création d'un film. Chapitre par chapitre, il va revenir sur les différents points du processus créatif d'un film. Donc, t'as un chapitre sur qu'est-ce que c'est que la réalisation, sur comment on dirige, comment on choisit des acteurs, comment on choisit un scénario, comment on décide de faire de la lumière, comment on choisit sa caméra. Bref, c'est assez technique par moment, mais ça reste très facile à comprendre. Le livre peut être lu, même si vous n'avez jamais vu un seul film de Sidney Lumet. J'ai commencé le livre, j'en avais vu qu'un. J'ai vu que 12 hommes en couleur, j'en ai 12 hommes en couleur encore.
Ouais, mais t'aimes toujours.
Bah ouais. Bref, au moment où j'ai commencé le livre, j'en avais vu qu'un. J'en ai rattrapé d'autres depuis et même pendant ma lecture. Mais donc, ça doit pas être un frein. Vraiment, soyez curieux, allez-y. Ça se lit très facilement. S'il y a que certains chapitres qui vous intéressent, vous pouvez y aller. Je vous conseille notamment le chapitre sur le montage qui est ultra intéressant et où il explique comment, par le montage, tu fais transparaître des idées de mise en scène, etc. Bref, il faut aller le lire. Il faut aller lire pour une deuxième raison, c'est qu'il y a Sidney Lumet fait preuve d'une grande honnêteté, je trouve, parce que réussir à avoir assez de recul sur sa carrière pour faire face à ses échecs, il faut avoir un certain courage pour l'écrire et pour le raconter comme ça. Et il le fait parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu des succès. C'est 12 hommes en couleur.
Mais il y a un truc. Hein. En plus, le film est en noir et blanc, je crois.
Oui. Ouais. C'est...
Il est génial. Hein,
c'est trop bien. Ouais. Mais donc, il y a eu des succès. 12 hommes en colère, Un après-midi de chien que je vous conseille, c'est vraiment Un après-midi de chien, c'est peut-être un des premiers films queer de l'histoire du cinéma.
Big Slay.
Serpico aussi. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Network, c'est effrayant quand tu regardes les médias aujourd'hui. Bref, il y a eu plein de succès, plein de chefs-d'œuvre dans sa carrière. Il y a eu quelques ratés, notamment un film qui s'appelle Wiz et dont il parle dedans. Wiz, c'est quoi? C'est une espèce de réadaptation du Magicien d'Oz, mais avec Michael Jackson dedans. Et le film a été tourné genre dans l'Empire State Building, donc c'est ultra cher à louer. Et ça a été un énorme four, un énorme échec, succès comme critique. Et il en parle dedans, il en parle notamment sur les décors, sur la direction artistique, bref, sur comment on fait des choix qui vont nous mener à ces erreurs. Donc vraiment, allez-y, que vous ayez envie de travailler dans le cinéma, que vous ayez envie de mieux comprendre les films que vous regardez, je pense que faire un film de Sidney Lumet est une œuvre importante, parce que Sidney Lumet nous aide certes à mieux comprendre les mauvais films, mais aussi à plus apprécier les petits miracles que sont les chefs-d'œuvre.
Oh.
Hey, la phrase elle pète, hein.
Poète ou pas?
Eh, hey, un peu. Hein.
Disquetteur plutôt.
Ouais, du gros disquette. Mais du coup, on a fini ce tour de table.
On a fini ce tour de table, ouais.
Ouais, c'était vraiment intéressant.
C'est très intéressant.
Ben,
merci à tous pour vos
retours. Tu conclus?
Non, conclus. Moi, je remercie.
C'est ok.
Je suis dans le remerciement, moi.
On vous remercie si vous nous avez écoutés jusqu'ici. Si, si vous avez envie de lire les choses qu'on a conseillées, de voir les films qu'on a conseillés, etc., bah allez-y. N'hésitez pas à faire des petites stories, vous nous mentionner
pour la fête, ça nous ferait plaisir.
N'hésitez pas à nous donner des retours, même que ce soit sur le podcast en soi ou sur les recommandations qu'on vous a fait. On vous donne rendez-vous à très bientôt.
Très bientôt.
On vous remercie pour nous avoir écoutés. Et on vous envoie plein d'amour.
Ouais. Merci la team.
Merci. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.